Collège du Savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Chacun sait que la force de l'opinion publique est une force politique qui a pris son plein essor au XVIIIe siècle. La montée en puissance de l'opinion publique coïncide toujours avec la crise d'un régime sclérosé et donc injuste. Il faut relire la thèse de Kant dans son essai « Qu'est-ce que les Lumières ?» pour comprendre quelles sont les conditions d'une opinion vraiment éclairée, d'une instance populaire de jugement. Mais, comme le rappelait hier Pierre-Auzan Vallon dans son cours consacré aux voies nouvelles de la souveraineté du peuple dans les démocraties du XXIe siècle, le système a tendance aujourd'hui à se passer de ce qui pourrait devenir quelque chose comme un tribunal populaire irrigué par la raison souhaitée par Kant et à s'en remettre aux instances judiciaires. C'est pourquoi ce matin, Pierre-Auzan Vallon s'intéresse à l'examen de ce qui, dans les démocraties contemporaines, tend à remplacer le politique par le pénal.
Il s'agit d'un phénomène complexe et protéiforme qui tient à plusieurs facteurs. On peut très schématiquement en distinguer trois. Le premier dérive de la nature des institutions politiques elles-mêmes. La pénalisation de la vie publique est ainsi particulièrement marquée dans les pays qui sont caractérisés par l'instabilité et la fragilité de leur système politique, ainsi que les pays dans lesquels les contradictions institutionnelles rendent problématique un exercice sain de la responsabilité. En Europe, l'Italie a constitué un exemple paradigmatique du premier cas de figure. La montée en puissance des juges dans ce pays, particulièrement spectaculaire, dans les années 80, dans le champ politique, a été clairement précipitée, alors, par l'incapacité du système politique à se réguler lui-même et à répondre aux attentes de la société. Le cas français, de son côté, relève plutôt, nous y reviendrons longuement dans le séminaire, d'une déficience constitutionnelle. La difficulté d'organiser la diarchie au sommet de l'État, entre le Premier ministre et le Président de la République, a conduit, dans le cas français, à rendre ce dernier pratiquement irresponsable. Et la faiblesse relative du Parlement a en outre contribué à affranchir globalement l'exécutif de tout un ensemble de contrôles pratiqués ailleurs. Les défauts de la Constitution de la Ve République ont donc joué, dans le cas français, un rôle accélérateur du phénomène général. De façon plus large, la judiciarisation du politique s'inscrit en second lieu dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un déclin de la réactivité des gouvernements face aux demandes des citoyens. On veut d'autant plus que les gouvernements soient amenés à rendre précisément des comptes, principe de accountability, qu'ils semblent moins être à l'écoute des attentes de la société, principe de responsiveness. Nous sommes ainsi passés de démocratie de confrontation et de représentation à des démocraties d'imputation. Le modèle de la démocratie de confrontation et de représentation, organisé autour de la compétition signifiante des partis, des programmes et des projets, est au moins momentanément affaibli par la dissolution des repères liés à l'avènement de la société post-industrielle. Mais le glissement vers la judiciarisation a aussi été provoqué par l'opacité croissante des processus de décision et de complexification des structures gouvernementales. Il est ainsi de plus en plus difficile de savoir qui est vraiment responsable d'une décision. De cette façon, c'est l'imputation elle-même qui est devenue problématique. Il y a trop de parties prenantes dans chaque affaire, de structures entremêlées dans la gestion des problèmes pour que le citoyen puisse y voir clair. L'entrée dans une société du risque n'a fait que renforcer cette difficulté. L'imputation est pour toutes ces raisons devenue problématique. Il y a trop de parties prenantes, il y a too many hands, c'est une expression anglaise qui est très souvent employée pour caractériser cette difficulté d'imputation. D'où la recherche d'un mode d'exercice de la responsabilité plus efficace et plus adapté. C'est dans ce contexte que le citoyen est parfois tenté d'attendre d'un procès des résultats qu'il a désespéré d'obtenir par l'élection. Faute d'un exercice satisfaisant de la responsabilité politique, on cherche à déterminer pénalement un coupable. C'est ainsi l'impuissance ressentie du politique sous ses différentes formes qui a conduit à déplacer les lieux de la mise à l'épreuve des gouvernants. Cette mise en jeu croissante de la responsabilité pénale pour compenser les défaillances de la responsabilité politique a généralement été interprétée comme le signe d'un accroissement du pouvoir des juges dans les démocraties. La notion de gouvernement des juges s'est du même coup imposée dans le langage savant comme dans les médias pour caractériser cette évolution. Je signale que l'expression « gouvernement des juges » est d'ailleurs une expression inventée au XXe siècle. La première occurrence date des années 1920 et c'est en France qu'on la trouve employée pour la première fois à cette époque. La littérature sur cette question de la judiciarisation du politique et du gouvernement des juges est maintenant immense. Partagée qu'elle est entre les observateurs inquiets de ce qui est assimilé à un recul de la souveraineté populaire et les analystes plus optimistes d'un mouvement qui pourrait être considéré comme identifié au progrès de l'état de droit. Il faudrait certes distinguer là nettement les réactions et les attitudes dans les différents pays. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, pour ne prendre que ces quatre exemples, présentent ainsi sur ce point de fortes spécificités tenant tant à leur histoire qu'à leur institution. Mais il y a bien un diagnostic d'ensemble comparable et des interrogations voisines. Si l'attention se porte sur l'accroissement du rôle des juges et la force du droit dans les démocraties, une question centrale est généralement négligée, celle des propriétés de l'acte de juger. Derrière le juge, il y a pourtant le jugement comme résultat de son activité. La demande sociale, qui s'exprime de façon diffuse dans les démocraties contemporaines, est peut-être d'abord, à cet égard, une attente de jugement. Le jugement est une forme d'action publique, une modalité d'expression de l'intérêt général. Ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la judiciarisation du politique doit être appréhendé dans cette perspective et ne pas être réduit à une simple question de concurrence institutionnelle entre magistrats et représentants dans l'exercice des pouvoirs. Au-delà du désenchantement vis-à-vis de la politique électorale, cette attente de jugement ne prend sens que si on la rapporte précisément aux propriétés spécifiques de cet acte de décision qu'est le jugement. Spécificité que je vais essayer d'appréhender en les comparant systématiquement aux caractéristiques du fonctionnement de l'univers électoral politique. Je distinguerai 5 éléments pour qualifier et distinguer le jugement comme forme de décision. Les conditions de justification, premièrement, deuxièmement, le rapport à la décision, troisièmement, la position dans l'action, quatrièmement, la forme de théâtralité, cinquièmement, le mode de rapport à la particularité. L'impératif de justification, tout d'abord. L'exercice de la responsabilité implique de rendre compte de ses actes. Or, les modalités de cette justification diffèrent profondément selon que l'on est devant un tribunal ou devant des électeurs pendant une campagne électorale. Il y a un mot célèbre du cardinal de Retz, qu'aimait beaucoup un homme politique du XXe siècle, français. Le cardinal de Retz disait « on ne sort qu'à son détriment de l'ambiguïté ». Et donc, en disant qu'on ne sort qu'à son détriment de l'ambiguïté, il entendait donner la clé d'une attitude politique avisée. Mais le mot de cardinal de Retz, s'il prend tout son sens en politique, où l'art de la dissimulation, la possibilité de reporter une échéance, le flou des engagements peuvent jouer un rôle essentiel, ne se retrouve pas dans l'ordre juridique, dans l'ordre du procès. La vie politique, pourrait-on dire, autorise presque structurellement l'entretien d'une telle ambiguïté. Cette dernière a dans le cadre politique, en effet, une fonction presque, que j'appellerais, de protection et de dérivation. Il est certes possible que l'engagement à parler vrai constitue, à l'inverse, parfois, un avantage comparatif. Mais l'appréciation de cette différence, de sa sincérité et de sa portée, reste difficile. Il n'en va pas de même devant un tribunal. Le procès oblige en effet les parties en cause à s'expliquer et à se justifier de façon publique. Nul ne peut vraiment faire diversion dans ce cadre. La différence avec les conditions d'intervention sur la scène proprement politique est ainsi flagrante. Dans le procès, il y a d'abord la présence organisée d'un contradicteur. Il y a aussi la soumission à une investigation contraignante. L'obligation de suivre une procédure qu'on ne contrôle pas. Le questionnement des faits, quant à lui, ne peut être entravé ou repoussé. La différence entre un procès et une campagne électorale est ainsi considérable quant aux conditions de la confirmation, de la justification et de la décision. Les deux rhétoriques, judiciaire et politique, sont également fort distinctes pour cela. L'exercice de la responsabilité peut y être mené de façon beaucoup plus méthodique et plus transparente. Ce que le grand juriste Kelsen appelait les chaînes d'imputation sont examinées de façon plus méticuleuse et plus systématique dans le cadre d'un procès. Les décisions du tribunal doivent par ailleurs être motivées. C'est une définition fondamentale de règles de justice. Il ne faut certes pas idéaliser le procès. Les conditions de l'argumentation sont notamment souvent loin de satisfaire tous les critères souhaitables et l'objectif de transparence est rarement pleinement atteint. Mais il n'en reste pas moins qu'une réponse aura pu être donnée à une attente sociale, qu'un processus réglé d'examen des faits, des intentions et des comportements des parties en cause aurait été mené à bien. Les citoyens ont pour toutes ces raisons le sentiment qu'on peut moins facilement échapper au jugement d'un tribunal qu'à la sanction d'un corps électoral. D'où les demandes qui s'adressent parfois plus volontiers au forum judiciaire qu'au forum politique. D'où, encore, les attentes civiques plus grandes qu'ils peuvent parfois formuler en se tournant vers la justice. Chacun sent aussi, sans toujours l'exprimer, que les jurés ou les juges sont mieux informés que des électeurs et qu'ils peuvent donc fonder plus rationnellement des appréciations. Le jugement lit de cette façon les réquisites égalitaires de la démocratie avec une certaine vision de l'expertise, offrant, sur ce mode, une sorte de troisième voie entre les modèles antagonistes de l'expression du nombre et de la raison. Je signale d'ailleurs qu'une des modalités très favorisée par tous les champions de la démocratie participative aujourd'hui est l'organisation de jurys experts ou de jurys citoyens. Un verdict est pour cela une forme de décision qui peut apparaître plus accomplie que celle que constitue l'issue d'un scrutin. Et un verdict entraîne généralement surtout des conséquences plus lourdes, donnant du même coup un poids plus grand et plus grave à la décision qu'il formule. À côté de la formation d'une volonté générale représentée dans le processus électoral, la prononciation de jugement s'impose ainsi comme une contribution jugée incontournable à la réalisation d'une vie démocratique. Deuxième caractéristique du jugement, l'obligation de décision. On a souvent rapproché les actes juridictionnels des autres activités étatiques. Gouverner et juger participe en effet bien d'une entreprise analogue d'intervention dans la vie des membres de la cité en vue de réaliser le bien commun. Mais les décisions judiciaires et politiques sont pourtant différentes. Une décision gouvernementale doit souvent être située dans une longue chaîne d'actions et de projets. Elle participe d'une politique au sens où elle ouvre des possibles et dessine un horizon. La décision politique est cependant aussi souvent manquante. La politique est l'art de repousser les choix, il n'est pas de problème que le temps ne finisse par résoudre, ces expressions populaires traduisent la perception du phénomène. Les exemples d'une telle préférence pour la non-décision sont multiples et permanents. Rien de tel dans l'ordre judiciaire. Un tribunal ne saurait s'abstenir de trancher une question sous prétexte qu'elle serait délicate ou controversée. Au contraire, c'est en effet parce qu'une question est difficile qu'elle est soumise à un jugement. En France, l'article 4 du Code civil fait d'ailleurs explicitement obligation au juge, sous peine de déni de justice, de se prononcer, même si les textes sur lesquels ils peuvent s'appuyer sont obscurs ou lacunaires. Je cite l'article 4 du Code civil. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice. La notion de déni de justice est ainsi inséparable de celle de justice, alors qu'il n'y a pas de déni de volonté politique. Même en l'absence de texte, dès lors qu'ils ont été saisis, par le parquet bien sûr, il en faut décider, quitte à remonter à des principes du droit naturel. La spécificité de la décision judiciaire est ainsi de clore une dispute, de déterminer une responsabilité, de sanctionner une action. Elle vide une fois pour toutes le contentieux. Elle marque un coup d'arrêt. L'effet d'un jugement est ainsi de mettre fin à l'incertitude. Le jugement, écrit en ce sens Paul Ricoeur, procède de la conjonction de l'entendement et de la volonté. L'entendement qui considère le vrai et le faux, et la volonté qui décide. On atteint ainsi le sens fort du mot juger, non seulement opiner, estimer, tenir pour vrai, mais en dernier ressort, prendre position. L'étymologie indo-européenne, ancienne, confirme cette définition, comme le montre Benveniste dans son vocabulaire des institutions indo-européennes. Le jugement est un acte d'établissement, de fondation, d'organisation du monde. Au-delà de sa dimension immédiate d'acte judiciaire, il s'inscrit par là dans un horizon beaucoup plus vaste. Au Moyen Âge, il est ainsi significatif de constater que le terme « judicium » reste inscrit dans la référence plus large au jugement de Dieu. Le jugement participe de cette façon d'une entreprise de souveraineté, mais aussi de spiritualité. Il constitue une forme radicale et, pourrait-on dire, limite du pouvoir humain d'instituer le monde. Il est toujours resté quelque chose de cette dimension dans notre monde contemporain, relativement aux politiques du moins. Face à la décision du nombre et aux principes politiques d'une autofondation, le jugement manifeste l'existence d'une autre modalité de l'action des hommes et des femmes pour former un monde commun. Dans la dialectique nécessaire de la décision efficace et de la délibération démocratique, le jugement correspond à un moment et un mode propre de la constitution de la cité. Troisième spécificité du jugement, le caractère de spectateur actif qui est provoqué par le jugement. Une décision politique engage ordinairement l'avenir, alors qu'un jugement est au contraire tourné vers le passé. La puissance et l'effectivité d'un jugement tiennent à cette caractéristique. Hannah Arendt a fortement souligné ce point dans ses ouvrages « Juger et conditions de l'homme moderne ». Elle rappelle notamment, dans « Conditions de l'homme moderne », que le sens d'un événement n'apparaît clairement que lorsqu'il est accompli. L'acteur, estime-t-elle, est pour cela toujours partiellement aveugle. Sa compréhension des choses ne peut être que tâtonnante, partielle et biaisée. Le spectateur, à l'inverse, lui, a toutes les cartes en main. Son champ de vision est plus large. Le juge présente les mêmes caractéristiques que le spectateur et l'historien à cet égard. La distance est certes d'abord, dans les deux cas, une condition d'impartialité. Mais Hannah Arendt n'en reste pas à ce constat. Si sa position exprime indéniablement une forme de désenchantement vis-à-vis de la politique, elle tente aussi de surmonter ce désenchantement en insérant l'activité de jugement dans le cadre d'une interaction plus large de l'élaboration de valeurs communes. Et bien sûr, c'est par là que le juge se distingue de l'historien. Il est certes spectateur, mais c'est un spectateur actif, engagé, dont l'intervention participe de l'institution et de la régulation de la cité. Dans la poursuite de la réflexion que je mène, on pourrait définir à partir du jugement une catégorie intermédiaire entre politique électorale positive et souveraineté négative. L'acteur lui-même, soulignons-le, a d'ailleurs besoin de la fonction réfléchissante d'un spectateur pour exister pleinement. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de récit qui l'accompagne et qui l'interroge, sauf à rêver d'une action pure et immédiate dont l'action, dont l'histoire a montré les impasses. La seule forme d'action non réfléchissante, en effet, pourrait-on dire, c'est l'insurrection. C'est l'insurrection qui est signification immédiate, qui est abolition de toute distance entre la signification, le signifiant et le signifié, avec tous les problèmes que cela pose, bien sûr. C'est donc aussi une autre façon de concevoir la politique qui peut être esquissée avec le jugement. On pourrait, pour cela, parler dans la ligne d'Arendt d'une véritable politique du jugement. Juger veut dire se mettre en question et mettre en question les autres. Juger n'est pas, comme le fait le militant d'un parti, adresser un message aux autres ou communiquer une vérité sur leur situation. C'est d'abord une mise à l'épreuve de la validité normative d'une communauté. C'est un travail réfléchi d'élaboration de ces liens constituants. Le jugement remplit bien de la sorte une fonction instituante proprement politique que n'accomplit pas l'ordinaire politique de la volonté. Politique de la volonté qui exprime les urnes et l'action gouvernementale. La fonction du jugement s'enracine en effet lucidement dans la distance de la réalité à l'idéal. La distinction entre politique du jugement et politique de la volonté qui se présente fonctionnellement a en outre en dernier ressort aussi une dimension d'ordre sociologique. Elle correspond à l'écart qui sépare le peuple un de l'idéal républicain de la réalité d'une société divisée. Elle manifeste la tension entre le citoyen et l'individu et elle enregistre le fait d'un écart aux lois. Quatrième caractéristique du jugement, le fait de la théâtralité. Tout pouvoir requiert une mise en scène pour donner consistance visible et sensible à ses fonctions et imposer son commandement. D'où l'importance des multiples rites de souveraineté qui marquent le rapport entre la proximité et la distance, soulignent la majesté, suggèrent la capacité protectrice. Il n'est que de visiter Versailles, sa galerie des glaces, pour en comprendre les ressorts et les secrets. Tout pouvoir politique obtient finalement la subordination par le moyen de la théâtralité, résume Georges Ballandier dans un livre excellent qui s'appelle « Le pouvoir sur scène ». Mais cette théâtralité, en un sens tout différent, c'est l'activité politique elle-même qui est un travail de mise en scène. L'activité politique et les travaux de mise en scène en étant liés à une entreprise de représentation de la société, en premier lieu, mais en impliquant aussi la formation d'un espace public d'échange et de confrontation. Cette dernière dimension de formation d'un espace public d'échange et de confrontation était historiquement fondatrice de l'expérience politique démocratique. Et on sait que la place occupée par le théâtre dans la cité grecque, il y a sur ce point le grand ouvrage classique de Christian Meyer, la place occupée par le théâtre dans la cité grecque antique en témoigne. Ce théâtre a été un des lieux essentiels de la réflexion de la société sur elle-même, donnant l'exemple singulier d'une communauté qui travaillait publiquement à ce qu'on pourrait appeler son infrastructure mentale et civique. Mais cette dimension de théâtralité du politique a souvent été occultée, négligée ou même refusée. Ce n'est pas le cas de l'activité judiciaire qui est structurellement liée à une forme de théâtralité. Bentham avait une définition du tribunal. Il disait « un tribunal, c'est un théâtre de justice ». Tout y en est fait disposé pour que les différents acteurs en jeu soient assignés à des places qui compose une scène directement intelligible. Le public surtout, et j'insiste sur ce point, y occupe une place de choix. Ce trait est même le grand invariant. C'est ce qui a fait des procès importants, des événements sociaux majeurs dans tous les pays et dans tous les temps. La dimension de publicité a en effet toujours été essentielle, même lorsque la justice était loin d'être impartiale, même lorsqu'elle n'était qu'une mascarade. Il n'y a pas de justice, même de mascarade dans les pays dictatoriaux, qui ne donne pas une place centrale au public, même si c'est un public factice, même si c'est un public enchaîné, même si c'est un public manipulé. Les salles d'audience ont toujours été conçues comme des salles de spectacle. Depuis deux siècles, la réflexion des architectes sur ce point a été passionnante. Ils se sont en effet ingéniés, c'est notamment le cas pendant la Révolution française, à donner forme au sentiment démocratique d'une justice rendue en public. Tous les plans élaborés pendant la période révolutionnaire font ainsi une place très large dans l'architecture des salles aux spectateurs. Ces spectateurs ne sont pas considérés comme des simples curieux de circonstances. Les plans de salles d'audience mentionnent ainsi explicitement emplacement réservé au peuple, marquant bien que le but est d'inclure les citoyens dans un espace judiciaire qui participe à sa façon de l'expression de la volonté générale. Le parallèle entre les plans de salles d'audience et ceux des divers projets de chambres parlementaires est d'ailleurs fort instructif de ce point de vue. Si les chambres parlementaires, et là, il y a eu énormément de projets architecturaux pendant la Révolution française sur ce point également, si les chambres parlementaires sont des chambres qui sont conçues avec un espace pour le public, l'architecture, elle est centrée sur l'espace propre aux représentants. Dans le Parlement, pourrait-on dire, la représentation élective est tout et le public est rien ou n'est presque rien. Dans le tribunal, si la représentation n'est que plus modestement fonctionnelle à travers l'office du juge, le public, même s'il n'est que passif, occupe quant à lui une place centrale. Ce sont donc deux économies différentes de la présence sociale qui sont en jeu dans les deux espaces. Une cour de justice ne fait donc pas que décider des cas qui lui sont soumis. Son rituel a une fonction d'institution sociale. Il participe d'une remise en ordre et d'une remise en normes du monde. Avec des variations selon les pays, on a ainsi par exemple opposé l'espace sacré de la salle d'audience française, qui est très figé, avec l'espace beaucoup plus mobile de la chambre d'audience américaine, qui est un espace où il y a une circulation, même une mobilité des personnes, et qui était compris, c'est une définition d'Antoine Garapon, beaucoup plus comme une sorte d'atelier que comme simplement un espace immobile. Qu'il s'agisse de la salle d'audience solennelle ou de l'atelier à l'américaine, l'activité de jugement, dans tous les cas, contribue à faire vivre une dimension essentielle de la démocratie à travers cette théâtralité. Cinquième caractéristique du jugement, il définit un espace de ce que j'appellerais la particularité exemplaire. L'efficacité du jugement qui retient l'attention du public est liée très classiquement au fait que, par définition, le jugement traite de cas particuliers. Mais pas de n'importe quel cas particulier. Ce dont on parle, ce sont des cas exemplaires, ce sont des cas limites, ce sont des cas problématiques. Le jugement va de cette façon dessiner des bornes au possible, marquer des coups d'arrêt, tenter de donner sens au monde, orienter la cité. Le jugement est par cela à la fois distinct de la dimension législative du politique, qui vise à la généralité, et de l'action strictement gouvernementale, qui est dispersée dans la gestion de la multiplicité infinie des situations. Pour citer Hannah Arendt à nouveau, dans l'ouvrage sur la critique de la faculté de juger de Kant, qui est particulièrement remarquable, souligne en ce sens que le jugement a pour caractéristique de combiner de manière énigmatique le particulier et le général. Cette combinaison énigmatique du particulier et du général, cette tension, correspond à une conception ouverte et constructive de la recherche du bien commun. À l'écart d'une raison ou d'une volonté une et immédiate, la demande sociale accrue de jugement s'inscrit ainsi dans une vision que l'on pourrait qualifier de pragmatique et pluraliste de l'intérêt général. Il y a sur ce point d'ailleurs une réflexion très originale de celui qui est le plus grand philosophe du droit, qui est anglais mais qui enseigne aux États-Unis actuellement, Dworkin. Dworkin explique que la caractéristique du gouvernement par jugement, c'est qu'il est particulièrement adapté, dit-il, aux sociétés multiculturelles. Car dans les sociétés multiculturelles, il faut justement trouver de façon très spécifique ce rapport entre particularité et généralité. Et dit-il, le « government by adjudication » correspond justement à ces sociétés. Et il voit là d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces formes de gouvernement remplissent un rôle plus grand dans le monde américain que dans le monde européen. À l'écart donc de cette vision, le jugement va approcher une vision qu'on pourrait dire plus pluraliste de l'intérêt général, pour faire vite. La catégorie du jugement comme décision offre, dans cette perspective, une solution à l'aporie exposée par Platon dans le Politique. Dans un passage fameux de ce dialogue, Platon soulignait l'illusion qu'il y avait à penser que la loi pouvait suffire pour gouverner. Il dénonçait Montesquieu par avance. Il dénonçait le rationalisme juridique du XVIIIe siècle, par avance. « Jamais une loi, écrivait-il, ne sera capable d'embrasser avec exactitude ce qui, pour tous à la fois, est le meilleur et le plus juste, et de prescrire à tous ce qui vaut le mieux. Entre les hommes, en effet, poursuit Platon, comme entre les actes, il y a des dissemblances, sans compter que jamais, pour ainsi dire, aucune des choses humaines ne demeure en repos. Ce qui ne permet pas à l'art, à aucun art, quel qu'il soit, de formuler aucun principe dont la simplicité vaille en toute matière, sur tous les points, sans exception, et pour toute la durée des temps. » Fin de citation. Tout pouvoir, reprend Platon, aspire cependant à un tel universalisme abstrait, à cette forme de simplicité, parce que cette simplicité serait le gage d'une efficacité de l'action publique, serait le gage d'une capacité à mouvoir absolument le monde et à le régir parfaitement et à gouverner absolument les hommes. Et Platon dénonce cette prétention du pouvoir de la généralité face à une réalité qui n'est constituée que de particularités. Le monde, en effet, est pour lui toujours renouvelé, toujours mobile. Il est dans son essence pure diversité, dans sa complexité, mais aussi tout simplement du fait de son historicité, qui le renouvelle en permanence. L'illusion nomocratique, celle d'un gouvernement par la loi, d'une généralité capable de saisir toute la diversité du monde, repose en fin de compte à ses yeux sur la superposition d'une présomption politique et d'une ignorance cognitive. Faut-il donc, pour marquer la rupture avec cette vision dangereuse et trompeuse, en revenir à un gouvernement, un art de gouvernement plus modeste, simplement fondé sur le pragmatisme et la sagesse de celui qu'il appelle l'homme royal, qui serait attentif à la multiplicité des situations et à la diversité des circonstances? Platon repousse aussi cette solution. Un tel chef, en effet, ne saurait exister pour lui. Cela supposerait qu'il y ait une sorte de médecin capable de se tenir en permanence au chevet de tous les patients, c'est-à-dire de tous les citoyens. Il y a donc, de son point de vue, une autre illusion dont il convient de se garder. On pourrait dire de cette façon que la politique est écartelée entre les deux impasses d'une rigoureuse nomocratie, de ce rationalisme juridique dont le XVIIIe siècle a inscrit en lettres d'or l'idéal, et d'un pur art de gestion. Le monde moderne n'a fait qu'hériter de cette tension. Il en a même radicalisé l'expression. Et c'est justement ce que la catégorie de jugement permet de dénouer. Le jugement lie fonctionnellement le particulier et le général sous les espèces d'une sanction ou d'un acquittement qui présente un certain caractère exemplaire. Le jugement contribue sur ce mode aussi à l'établissement démocratique, en rapprochant les faits et les valeurs, en donnant à lire les situations de la vie sociale au prisme des principes qui la régissent. Il y a de la sorte une forme de pédagogie politique qui est à l'œuvre dans le jugement. Les cinq qualités et propriétés du jugement que nous venons de décrire font comprendre la spécificité de la contribution de ce jugement à la vie de la démocratie. Loin d'être seulement une sorte de conséquence dérivée du rôle protecteur des libertés qui est reconnu au droit, le jugement participe de cette façon également à l'institution de la cité et pas simplement à la régulation de ses dysfonctionnements. Cela nous permet d'envisager peut-être de façon différente maintenant les rapports entre le vote et le jugement. Voter et juger, nous l'avons déjà noté, constituent deux moyens d'intervenir dans l'organisation de la cité. Il y a bien sûr une dissymétrie entre le principe du suffrage universel qui régit le vote et le principe de compétence déléguée sur lequel s'appuie l'intervention du juge. Mais cet écart n'est que relatif. En témoigne la figure intermédiaire du citoyen juré, qui est même doté à bien des égards d'un pouvoir beaucoup plus étendu que celui du citoyen électeur. En témoigne aussi le fait que la publicité des actions qui se déroulent dans les cours de justice est souvent mieux assurée que la publicité des activités parlementaires. Seule une vision étroite de la représentation et de la légitimité pourrait donc conduire à hiérarchiser de façon rigide ces deux fonctions. Si le suffrage reste dans tous les cas politiquement le pouvoir du dernier mot, l'activité démocratique ordinaire mêle en permanence décision politique et décision judiciaire. Leurs spécificités respectives que nous venons d'explorer sont plutôt d'ordre fonctionnel. Leur complémentarité est aussi de cet ordre. C'est d'ailleurs pourquoi la vieille interrogation sur les avantages et les inconvénients de l'élection des juges est très loin d'épuiser le problème de la fonction sociale et politique du jugement. Si le problème de la légitimité de l'action judiciaire était simplement lié aux conditions de légitimité de ceux qui exercent ce magistère, alors effectivement, la question de l'élection des juges serait centrale. Mais si le problème est celui de la caractérisation et de la nature de l'acte de jugement, alors cette question peut être appréhendée différemment. L'essentiel reste bien de comprendre et de considérer la spécificité du jugement comme forme politique, afin d'apprécier les raisons des attentes croissantes des citoyens à cet égard. La question de la concurrence des jugements mérite là d'être évoquée. Par concurrence des jugements, j'entends le fait de la différence entre le jugement judiciaire qui examine les malversations d'un homme politique, les malversations qu'un homme politique a pu commettre, jugement qui peut conduire à son inéligibilité, et le jugement politique de la même personne que peut exprimer dans un laps de temps très rapproché le verdict des urnes. On a pu observer plusieurs cas de cette nature en France dans les années 1990 et 2000. Des travaux de sociologie politique ont été consacrés au cas des élections à Levallois-Perret et au cas de l'élection de M. Mélic dans le Nord. Le problème d'ailleurs des effets sur le vote des accusations de corruption d'un candidat a été soigneusement étudié, notamment dans le cas américain. Il y a beaucoup d'études de sciences politiques sur ce point. Il y a donc dans un certain nombre de ces cas le jugement politique qui, exprimé dans un temps très rapproché du jugement judiciaire, a pu exprimer un verdict différent. en réélisant un coupable, entre guillemets, les électeurs ont ainsi pu paraître absoudre des comportements que la justice pénale avait sévèrement. Sanctionner. L'interprétation des faits de cette nature n'est pas évidente. On ne peut en effet seulement les rapporter à ce qui ressortirait d'une absence de morale ou d'un cynisme des électeurs. Pour le comprendre, il faut les saisir, me semble-t-il, dans une économie croisée du jugement et de la représentation politique. La concurrence des jugements électoral et pénal s'inscrit dans ces cas dans une sorte de renversement des accusations habituelles de mal-représentation. Ce sont ainsi généralement des pratiques clientélistes, entre guillemets, très structurées, qui expliquent que l'attachement politique à une personne considérée proche de ses électeurs puisse l'emporter sur l'appréciation morale de ses actes délictueux. Concurrence des jugements correspond donc là à l'opposition implicite d'une proximité politique et d'une distance judiciaire. C'est dans ce cas, pourrait-on dire, l'institution judiciaire qui est de fait suspectée d'être entre les mains d'un establishment lointain et peu attentif aux réalités de terrain. La préférence pour le jugement politique est donc manifeste dans ces cas que je viens d'examiner. Mais elle justifie de la sorte, à contrario, la validité d'une appréhension comparée du vote et du jugement en démocratie. Il conviendrait d'ailleurs, pour prolonger cette perspective, d'esquisser les traits de ce qu'on pourrait appeler une économie générale du jugement politique. Deux types de procédures l'organisent, ce jugement. À une extrémité, la réélection. Quand on parle d'élection-sanction, quand on parle d'élection qui considère le bilan, la réélection, l'élection est un choix, la réélection est un jugement, pourrait-on dire. Et de l'autre, à l'autre extrémité, la poursuite pénale. Réélection, poursuite pénale, chacune de ces formes de jugement a ses spécificités. Quant à la nature du tribunal qui en est l'agent, mais aussi quant aux formes de légitimité qui la sous-tendent. On peut, sur ce terrain encore, parler de concurrence des démocraties, comme je l'ai fait à propos de la surveillance. Mais il est aussi essentiel de souligner à ce propos l'importance croissante que prennent des modalités intermédiaires du jugement, qui viennent s'intercaler entre le procès pénal, si je puis dire, et là, le jugement qui constitue la réélection. Formes intermédiaires qui ont pour caractéristique d'insérer des démonstrations qui s'apparentent à celles de l'ordre judiciaire dans un cadre de nature politico-médiatique. Ce sont les formes du débat public et les modes de présence citoyenne qui sont concernés, allant des jurys citoyens à vocation d'expertise limitée, au type d'instruction globale à charge que mènent escalité les partis d'opposition. Entre les deux, à la manière des anciens juges ambulants en siège permanent, le tribunal de l'opinion publique se dissout et se reforme sans cesse au gré des événements. Le vrai tribunal ambulant du monde moderne est celui de l'opinion publique. C'était la grande idée judiciaire dans l'Angleterre classique. Le lien avec les développements des divers pouvoirs de surveillance est bien sûr très étroit sur ce point. Pour résumer, ce que pourrait être une économie générale du jugement, allant du judiciaire au politique, on pourrait définir les catégories suivantes. En distinguant les formes de jugement, la nature du tribunal, la périodicité de ses sessions et le type de sanction. Première forme de jugement, un procès menée devant un tribunal qui s'appelle une haute cour de justice. Des hautes cours de justice ayant pour caractéristique quasi générale d'être de nature parlementaire. Qu'elle soit composée d'une chambre tout entière, c'est le Sénat américain pour l'impeachment, ou comme dans le cas français où la haute cour est composée de parlementaires choisis. La périodicité, bien sûr, d'une haute cour de justice est exceptionnelle. Elle ne se réunit que très peu souvent, et le type de sanctions sont à la fois politiques et pénales. L'impeachment américain est un bon exemple de ce mélange du politique et du pénal. Deuxième forme de jugement, un procès toujours, mais un procès, disons, plus ordinaire, mené devant un tribunal pénal. La périodicité des sessions, elle est occasionnelle ou exceptionnelle, c'est au cas par cas. Et les types de sanctions, prison, amende, mais sanctions politiques aussi, période d'inéligibilité. Troisième forme de jugement, ce que j'appellerais le jugement, la première forme intermédiaire de jugement. Première forme intermédiaire de jugement, l'évaluation technique d'une action. Quel est le tribunal ? Dans ce cas, c'est celui, le tribunal d'une communauté experte. Périodicité des sessions, permanente. Type de sanction, nous l'avons déjà abordé dans les séances sur les pouvoirs de surveillance. Type de sanction, dégradation de la réputation ou accroissement éventuel. Deuxième forme de jugement intermédiaire, l'appréciation spécifique d'une politique ou d'une action. C'est de façon très générale. Le tribunal concerné est celui de l'opinion publique. Tribunal de l'opinion publique, qui siège de façon permanente et itinérante, si on veut, et dont le type de sanction, c'est aussi la dégradation de la réputation. Troisième forme de jugement intermédiaire, c'est l'appréciation générale d'une politique devant un tribunal particulier qui est le tribunal de l'opposition. Tribunal de l'opposition qui, lui aussi, siège en permanence. Et la sanction, là, c'est la variation du rapport des forces. Dernière forme de jugement, la réélection. Le tribunal est dans ce cas le corps électoral. La périodicité des sessions, c'est épisodique, mais réglé d'avance, pourrait-on dire. Et le type de sanction, ben, c'est éventuellement le non-renouvellement du mandat. Ce qui caractérise les démocraties contemporaines, me semble-t-il, réside dans le mouvement qui tend à rapprocher et à croiser ces différents univers. La preuve évidemment la plus manifeste de ce mouvement, c'est que le procès devant une autre cour fait le lien, pourrait-on dire, entre ce qui est de l'ordre du corps électoral et ce qui est de l'ordre du tribunal pénal, puisque par la nomination, mode de nomination de ces juges, il appartient, d'une certaine façon, aux deux univers. Caractéristique qui entraîne parfois un certain nombre de confusions ou un certain nombre de dérives. Un certain nombre de ces dérives, ce sont celles que l'on pourrait traiter sous le label général de judiciarisation du politique, par exemple. Mais, en même temps, avec le développement d'une citoyenneté plus active qui peut en résulter. Le fait central est en effet qu'au-delà de leur distinction, ces différentes instances font de plus en plus système de façon complexe. Les tribunaux que nous avons évoqués fonctionnent ainsi alternativement en premier appel et en instance. Le premier appel est parfois le tribunal de l'opposition ou de l'opinion publique et le tribunal d'instance, pourrait-on dire, le corps électoral. Mais dans d'autres cas, au contraire, c'est le corps électoral qui joue le rôle d'un tribunal d'appel. Il compose ces différents tribunaux une hiérarchie toujours mobile. Les instructions, de leur côté, tendent à se superposer. Entre les instructions de l'opposition, celles de l'opinion et puis celles du corps électoral, il y a une convergence, voire une confusion. Et les sentences, quant à elles, elles sont presque toujours cumulatives. La perte de la réputation, le non-renouvellement du mandat et en cas de malversation, l'inéligibilité dessine un cercle vicieux pour celui qui en est victime ou l'objet. Les trois modalités que j'ai qualifiées d'intermédiaires jouent un rôle essentiel dans cette circulation. Les développements sur les pouvoirs de surveillance nous ont déjà permis d'appréhender les traits et les fonctions du tribunal de la communauté experte et du tribunal de l'opinion publique. Tribunal, je le dis au singulier, mais il serait d'ailleurs peut-être préférable d'en parler au pluriel, tant ces tribunaux de la des communautés expertes et ces tribunaux de l'opinion publique sont changeants et ont en permanence des aspects qui sont modifiés, tant ils sont multiples et tant ils sont mobiles. Mais je voudrais ici souligner particulièrement le rôle de l'opposition comprise comme un tribunal. Le sens de l'opposition dans les démocraties s'éclaire en effet d'un jour nouveau si on appréhende cette opposition sous les espèces d'un pouvoir permanent de mise en accusation et de mise à l'épreuve des gouvernants. Il y a bien sûr une fonction, j'ai déjà insisté sur ce point, libérale de l'opposition. La première fonction de l'opposition, c'est de jouer un rôle de prévention du risque de tyrannie de la majorité. La prévention, l'opposition est une forme d'organisation d'une défiance protectrice des libertés. Elle est en même temps une organisation protectrice des droits de la minorité. Elle est enfin, cette opposition, une garantie de la liberté d'expression et du pluralisme dans la société. Ces différentes dimensions libérales de l'opposition sont bien connues. Mais il me semble qu'il faut considérer également l'opposition dans ce cadre d'une économie générale du jugement politique.